On est déjà rendu au mois de septembre. Les vacances, c'est fini. N'est-ce pas? Malheureusement. En tout cas, nous autres, ma femme et moi, on fait toujours une espèce de petit voyage quelques jours durant nos vacances d'été. Puis cet été, on a décidé d'aller avec un autre couple dans la région de Prince Edward County. Ça, c'est en quelque part Kingston, Belleville, Toronto. Et là, il y a des belles choses à voir. Il y a des vignobles, puis il y a aussi la plage qu'on appelle Sandbank, une belle plage de sable. Ça vaut la peine d'être vu. On était en train de se promener dans les environs, puis on a décidé, c'était à l'heure d'un repas. Et puis, on a arrêté, stationné, devant une église. Ce n'était pas une église catholique, ça semblait être une église protestante. Et j'aime toujours voir ce que les églises ont à marquer, surtout en Ontario. Puis celle-là, elle ne faisait pas exception. Il y avait un écriteau, une espèce de boîte avec une vitre en avant. Et puis, il y avait le nom du pasteur en haut, que je ne me souviens plus, c'était qui. Puis, en dessous, c'était, il y avait une phrase de bienvenue, je pourrais dire, et c'était comme suit. C'est en anglais, bien sûr. C'est écrit, « Come where faith is fun. » Come where faith is fun. Ma traduction personnelle de ça, c'est, « Viens, exercer ta foi là où c'est synonyme de plaisir. » Ou plutôt, « Viens faire l'exercice de ta foi là où c'est synonyme de plaisir. » Et ça, ça m'a toujours trotté dans la tête. Toute la journée, ça me trottait dans la tête. Je dis, « Faut absolument que je valide cette phrase avec ce que la Bible dit. » Comme tout bon chrétien, on vérifie c'est quoi. On peut-tu trouver un synonyme dans la parole de Dieu? Puis je me suis dit, hey, s'il y a des gens qui savent que l'exercice de la foi, c'est synonyme de plaisir, c'est certainement les héros de la foi, n'est-ce pas? Les héros de la foi vont nous dire si l'exercice de la foi est le synonyme de plaisir. Eux autres le savent. Puis là, j'ai pensé à Noé. Je dis, Noé, là, je ne sais pas s'il a trouvé ça du plaisir d'expliquer aux gens de ses environs, pourquoi est-ce qu'ils construisaient un navire de dimension gigantesque dans un temps où il n'y avait jamais plu et dans un lieu où il n'y avait jamais eu d'eau? Je me le demande. Je me demande aussi si Abraham a eu du plaisir quand Dieu lui a demandé de quitter sa famille, ses parents, ses amis, sa job, sa maison, etc., pour aller habiter dans des tentes dans un lieu où il ne connaissait pas. Je me le demande. Et aussi, je ne sais pas s'il y a eu du plaisir quand il a attendu 13 ans pour que l'accomplissement de la promesse de sa postérité arrive. 13 ans! Moi, j'attends 3 minutes au guichet automatique, ça me tombe ses nerfs. Hey, 13 ans à attendre après quelque chose. Je me demande si Moïse a eu du plaisir lorsque Dieu l'a appelé à travers les buissons ardents. Puis il a dit, là, tu vas aller conquérir ou tu vas aller délivrer mon peuple d'Égypte. J'ai vu qu'il était dans la souffrance, il était les esclaves des Égyptiens. Tu vas aller délivrer, toi. Tu vas aller voir Pharaon, puis tu vas aller dire, laisse-les aller. Oh, je ne sais pas s'il y a eu du plaisir. Mais je sais une chose, par exemple. Il est arrivé avec une panoplie d'excuses, puis à la fin, il a dit, ben, Seigneur, trouve donc quelqu'un d'autre. Trouve donc quelqu'un d'autre de plus compétent que moi, là. Et que dire de Josué? Je ne sais pas si il a trouvé ça bien du plaisir lorsque Dieu l'a appelé à remplacer Moïse. C'est à peu près le pire temps de l'histoire pour remplacer un leader comme Moïse. Moïse vient de décéder et je ne sais pas l'impact que ça a eu avec le peuple d'Israël. Il vient de mourir, ça a certainement dû les quelque sorte décourager. Moïse, c'était celui que avec sa baguette, il avait ouvert la mer Rouge pour laisser passer le peuple à travers la mer Rouge. C'est lui qui avait, avec la même baguette, refermé la mer Rouge pour ensevelir tous les soldats. C'est lui qui a, en fin de compte, affronté le pharaon, puis il a dit, « Hey, laisse mon peuple partir! » Et c'est le seul, à ma connaissance, où Dieu lui a parlé face à face, comme on peut se parler, vous et moi. Je ne sais pas, mais être dans les bottines de Josué, j'allais en quelque sorte transpirer un peu. J'aurais eu chaud, mes genoux allaient comme cogner un peu. Et le Seigneur, il a cru bon de l'encourager à trois reprises. Il a dit, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. On dit pour ça à quelqu'un qui va avoir du fun. Hein? Fortifie-toi, prends courage. Non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et que dire de oser? Lorsque Dieu lui a demandé, va, aime ta femme. Et ça, c'est le fun quand ta femme est fine. Non, mais c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas ici. Quand que Dieu dit, va, aime ta femme, c'est que sa femme l'a rendu cocu. Sa femme s'est adonnée à la prostitution. Sa femme, elle est sous le marché de l'esclave pour être vendue comme commerce de prostitution. Va, aime-la. Hey, Seigneur, elle n'a même pas de repentance, cette femme-là. Puis tu me dis d'aller l'aimer. Oui, oui, il dit, va au guichet automatique, sors de l'argent pour la racheter. Je ne sais pas s'il a aimé ça, oser, mais il l'a fait. Il l'a fait. Je ne suis pas en train de dire que l'exercice de la foi est la chose la plus terrible, la plus morbide qui existe sur la terre. Oui, il faut exercer notre foi avec la joie. Mais l'exercice de la foi dans le gymnase de Dieu n'est pas une démonstration de nos sentiments, que ce soit de la joie ou que ce soit de la peur. Ce que ces hommes ont en commun, c'est qu'ils ont mis au deuxième rang leurs sentiments et ils ont cru à Dieu malgré des situations qui semblaient insurmontables. Leur foi est basée sur la parole de Dieu et non pas sur leurs sentiments. Ce matin, on va regarder, ou j'aimerais ça parler de l'exercice de notre foi, ayant comme exemple Jonas. Tout le monde connaît Jonas, hein? Jonas, ce prophète-là, que Dieu lui parle, tu vas aller à Ninive. Ninive est par là, Jonas s'en va par là. Dieu lui envoie une baleine, Dieu envoie une tempête pour ramener Jonas dans la bonne direction. Vous savez, quand on parle de cette histoire-là au monde, il arrive toujours avec les mêmes arguments. Oui, oui, Jonas, oui, je connais cette histoire-là. Je la raconte à mes enfants, une belle fable, une belle histoire, drôle et comme aussi ridicule. Ils n'ont jamais trouvé d'évidence dans le monde comme quoi ils ont trouvé une baleine avec la gorge assez grande pour avaler un homme. C'est ça que le monde va vous répondre. Puis encore plus, trois jours dans une baleine, puis tu es encore en vie, tu reviendras avec celle-là. C'est ça que le monde va vous répondre. Mais pour les gens de l'Ancien Testament, les historiens sont quasi d'accord pour dire que c'était une des quatre plus grandes histoires de l'Ancien Testament. Il y avait bien sûr Adam et Ève, Abraham, Isaac, Daniel dans la cage au lion, mais il y avait aussi Daniel, pas Daniel, mais Jonas dans la baleine. Martin Luther a dit ceci de cette histoire-là. Il n'aurait jamais cru à l'histoire de Jonas si ça n'aurait pas été écrit dans la parole de Dieu. Et l'ouverture de la mer Rouge avec Moïse semble banale comparée à l'histoire de Jonas dans la baleine. On peut se prendre un moment et on va prier Dieu avant de commencer le message. Seigneur Dieu, on veut te prier, on veut que tu fasses faire de la place dans nos cœurs, dans nos pensées. On puisse apprendre de ce prophète Jonas, à qui on ressemble tellement parfois, et même souvent. Seigneur, puisses-tu être chacun de nous, et que l'Esprit de Dieu puisse faire son travail librement. Amen. Le premier point de mon message, c'est l'exercice de notre foi dans l'appel de Jonas. Et là, j'aimerais ça qu'on puisse prendre nos Bibles, dans Jonas, chapitre 1, versets 1, 1 et 2. Mais avant de commencer d'une façon officielle, j'aimerais ça vous décrire la ville de Ninive. Une belle ville, Ninive. Il y a plein de choses à voir à Ninive. La Bible nous dit que c'est une grande ville de l'Empire d'Assyrie. 120 000 habitants. Trois jours de marche. C'est assez grand. C'est une ville de prestige, de puissance et d'importance. C'est une ville bien connue pour leur victoire militaire, leur violence et leurs intimidations. Et leurs atrocités. Voyez-vous, quand les habitants de Ninive conquéraient une ville, savez-vous ce qu'on faisait avec les soi-disant prisonniers? On les empalait. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi empaler, moi non plus, je ne le savais pas, j'étais obligé d'aller voir dans mon dictionnaire. C'est quand vous faites une brochette Vous empalez la viande. Vous prenez un morceau de poulet, vous le passez dans le bâton, vous prenez un morceau d'oignon, vous prenez un morceau de piment, un autre viande, etc. Bien, c'est exactement ça qu'on faisait avec les gens. On leur transperçait le corps avec un bâton et puis on plantait le bâton en avant de la ville dans laquelle il était conquis ou en avant de la ville de Ninive. Les autres, c'était pas bien, bien mieux. On coupait les bras au poignet, le nez, les oreilles, le doigt, on crevait leurs yeux. Plein de choses à voir en Ninive. Des musées d'atrocité, des musées d'horreur, c'est là qu'il faut aller. Et pour les dirigeants de la ville qui étaient conquis, savez-vous ce qu'on faisait avec? On leur enlevait la peau et on exposait leur corps devant la ville de Ninive sur les murs ou sur la ville qui était conquise. Personne n'échappait et même si dans le temps de Jonas, les atrocités avaient quelque peu diminué, ils étaient toujours une menace évidente pour Israël. C'est même fort probable que des gens très proches de Jonas avaient été victimes de leurs atrocités. J'aimais ça, vous avez toutes vos bibles dans Jonas, vous avez votre doigt là. Regardez ça au verset 1 et 2, là on va commencer. L'exercice de notre foi dans l'appel de Jonas, on lit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathéi, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée contre moi. » Voyez-vous, le livre de Jonas commence par un commandement de Dieu. Le statu quo, ce n'est pas acceptable. Tu vas te lever, tu vas prendre tes bottes, tu vas t'en aller dans la direction de Ninive. On a tout compris ça? Puis ensuite, il dit, crie, crie contre elle. Va les sermonner, va les conduire. Va déclarer, va les appeler, va les invoquer. Ouvre la bouche, j'ai quelque chose à leur dire, c'est que leur atrocité, je les ai vues, puis il va y avoir un jugement contre eux, c'est quelque chose d'imminent, de certain. Là, on va arrêter là. On va arrêter là dans le temps. Versets 1 et 2, on arrête là. On est là, à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Là, je dois vous dire que j'ai reçu un coup de téléphone ce matin avant de partir, c'était Jonas lui-même. Non, mais c'est parce qu'on a arrêté dans le temps. Là. Il vient d'avoir le commandement, puis il m'a appelé. Hey, il dit pas que tu vas te faire Gatsou. Je dis oui. Il dit, tu vas-tu parler de moi? Je dis oui. Il dit, dis-leur donc que je m'en vais à Ninive, on va dire, puis j'aurais besoin des volontaires dans la salle de Gatineau, dans les jeux de Gatsou, pour venir avec moi faire un voyage à Ninive, un voyage missionnaire. J'ai deux bonnes nouvelles pour vous aider à prendre une décision. Votre soutien financier pour le voyage missionnaire, il y a quelqu'un qui en a pris soin. Fait que vous n'avez plus besoin de vous occuper de ça. Bonne nouvelle, hein? Non, mais vous allez être libre financièrement. Vous allez être payé pour faire un voyage missionnaire. Toutes dépenses payées. C'est bon, ça? Ça vous aide hein, à dire des bonnes réponses. Et deuxième bonne nouvelle pour vous. J'ai parlé au conseil ce matin de l'église de Gatineau. Puis, ils étaient tous à l'unanimité pour ça. Si jamais quelque chose arrive à Ninive, il ne faut pas être pessimiste non plus, là, mais si jamais quelque chose arrive à Ninive, tous vos frais de funéraire sont tous payés. Hey, c'est bon, ça! Pas de soutien financier, service funéraire payé. Hein? À la fin du culte, Rachel, ma femme, va être en arrière, va prendre les noms, Jonas va être là aussi pour répondre à toutes vos questions. Voyage missionnaire à Ninive. Plein de belles choses à éviter, là. Des musées d'horreur, des atrocités, allez tout voir ça. Il y a des gens qui ont dit aller à Ninive, c'est comme aller en enfer. Il ne faut pas prendre une décision trop vite. Aller à Ninive, c'est d'aller en enfer. Probablement que Jonas était un héros national en Israël. Parce que Dieu lui avait donné certaines prophéties dans le passé, des prophéties sur des victoires militaires. Et ces victoires militaires-là se sont produites très vite. Et Jonas a dû marcher dans les rues, et c'était un héros national, probablement. Proclamer la parole de Dieu à Israël, aucun problème. Proclamer la parole de Dieu dans un pays lointain, rebelle, dangereux. Ça, c'est autre chose, là. Ça dépassait ses barrières, que ce soit géographique ou social. C'est plus dans l'exemple de Jésus. Jésus parlait aux femmes dans son époque, ça ne se faisait pas. Mais lui, il l'a fait. Avoir des contacts sociaux avec les pécheurs, ça ne se faisait pas à son époque. Mais lui, il l'a fait. Aider les Samaritains à son époque, ça ne se faisait pas. Mais lui, il l'a fait. Toucher les lépreux à son époque, ça ne se faisait pas. Mais Jésus l'a fait. Voyez-vous, dans l'exercice de la foi, Dieu requiert de nous des choses qui, à ce moment, n'ont aucun bon sens et qui dépassent toute compréhension et capacité. J'ai certains exemples pour vous. D'abord, la foi va plus loin que nos expériences personnelles. Est-ce que c'est possible que vous avez prié pendant 5, 10, 15 ans pour des personnes, ces personnes-là sont devenues rebelles? Et dans notre expérience personnelle, on a arrêté. C'est assez, ces gens-là sont devenus insauvables, on va arrêter. La foi va plus loin que ça. Et dans le temps le début de l'Église, on voit un Saul de Tarse se convertir. Et je ne crois pas que beaucoup de personnes à l'époque priaient pour l'apôtre Paul. Mais on ne sait pas qui Dieu va sauver le prochain. Il faut continuer. L'exercice de la foi aussi a toujours un prix à payer. L'exercice de la foi a toujours un prix à payer. L'exercice de la foi nous sort de notre zone de confort. Souvent, il y a des gens qui vont dire, la foi, ça s'appelle risque, R-I-S-Q-U-E. Exercer notre foi amène un risque. C'est dangereux, on peut perdre. Je me souviendrai toujours d'une expérience que j'ai eue une vingtaine d'années. Ici même. À l'époque, quand j'ai commencé dans le ministère à temps plein, il y avait certaines personnes qui travaillaient à l'église, des seniors. Puis quand j'ai commencé, ils étaient tous là. Mais un par un, ils sont partis. Puis je suis devenu le seul à temps plein à travailler dans l'église. Il y en a d'autres qui travaillaient là, mais à temps plein, j'étais le seul. Et j'avais comme tâche d'apporter 3 prédications par mois. Le 4e dimanche, j'étais en repos. C'était mon jour de congé. Puis je me souviens, un dimanche matin, c'était mon dimanche de congé. J'étais dans mon bureau, il était à 8h30. J'étais en train de lire. Ma femme se préparait, préparait les enfants. Ça ne sonne pas correct, ça. En tout cas. Le téléphone sonne. J'ai dit, Rachel, j'ai dit, ça doit être quelqu'un qui veut une ride. Dis qu'il n'y a pas de problème, on va l'embarquer. Elle répond au téléphone. Elle dit non, elle dit, c'est Rock Desjardins, c'est lui qui dirigeait à cette époque-là. On parle d'une vingtaine d'années pour ça. Elle dit, il veut te parler. OK. Quelque chose de spécial. Là. Il veut que je fasse sa prière, quelque chose de même. Là. Il m'appelle, il dit, Paul, t'as un problème. J'ai un problème. Mais non, c'est mon jour de congé, je m'en vais masser, comme tous les autres, je m'en vais écouter, je vais être bien sage. Non, non, il dit, c'est un problème. Celui qui devait te remplacer ce dimanche-là, il ne peut pas venir. Il a mal à la gorge, il ne peut pas parler. Rock, t'as un problème. C'est toi qui es le conducteur. Arrange-toi. Fais une rencontre de prière. Non, non, il dit, c'est toi qui as un problème. Quand je vous dis que l'exercice de la foi, c'est sortir de sa zone de confort, croyez-moi, ce matin-là, je n'étais pas dans ma zone de confort. Qu'est-ce que je fais? Il y a peut-être 200 personnes qui viennent à l'église. Ils viennent entendre la parole de Dieu. On n'a pas rien à leur dire. Et là, j'étais nerveux. Prêcher avec des notes, c'est bon, c'est correct. Mais prêcher pas de notes, puis prêcher pas de messages, ça, c'est difficile. Laissez-moi vous dire ça. M'as-tu passé pour qui, là-bas? Là? Tu sais, là? J'étais en soir. J'étais en soir. Je dis en bas, hey, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose, puis ça presse, là. Je ne veux pas attendre 13 ans, moi, là. Ça presse, j'ai besoin de quelque chose, puis tout de suite. Ah, c'est un ordre. Mais vous savez, Dieu, il ne va jamais au-delà de nos forces. dans la même semaine, au début, la semaine d'avant, j'ai eu l'occasion d'aller à Montréal avec quelqu'un en auto. On a parlé 2 heures sur le même sujet. Puis en quelque part, là, Dieu a eu pitié de moi, je pense. Puis il m'a donné quelque chose à dire. Puis je suis venu en avant, puis j'ai exercé la foi. Mais laissez-moi vous dire, l'exercice de la foi nous sort de notre zone de confort. Il y a un risque à prendre d'exercer notre foi. On peut perdre la face à exercer notre foi. Mais savez-vous quoi? Ça m'a exercé dans ma foi. Je sais que le Seigneur était avec moi ce matin-là. Il va être aussi avec vous quand vous allez exercer votre foi dans votre situation particulière. L'exercice de la foi, non seulement un prêt payé, nous sort de notre zone de confort, mais l'exercice de la foi, c'est exposer à des blessures. L'exercice de la foi, c'est s'exposer à des blessures et même à des doutes. C'est à peu près dans la même situation que le 20 ans passé. Encore une fois, les seigneurs de l'Église sont partis pour des raisons qui leur étaient propres. Puis je me souviens, ce journée-là, je devais faire une étude. Et puis je suis venu à l'Église, là, à la porte en arrière. J'avais besoin de certains livres pour faire une étude sur un sujet particulier. Puis je suis arrivé en même temps que des gens, puis je pense que je les ai surpris, je ne me souviens plus c'est qui ces gens-là. Un couple, je ne me souviens plus, ça fait tellement longtemps. Ce n'est pas important. Et puis ces gens-là, ils avaient une enveloppe dans les mains. Puis quand ils m'ont vu, je les ai comme surpris, puis là, ils ne savaient pas quoi faire avec l'enveloppe. Puis j'ai dit, je peux-tu vous aider? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Ouais, ils ont dit, on voulait te laisser l'enveloppe. J'ai dit, on peut-tu en parler? Ça concerne quoi l'enveloppe? C'est parce que nous, on trouve que l'Église, ça ne va pas bien. Puis, dans l'été, à ce temps-là, ça n'allait pas, humainement parlant, ça n'allait pas si bien que ça. On a passé de 300 à 200. Mais les chiffres peuvent me tromper. Ce n'était pas une bonne période de croissance. C'était une décroissance. Puis là, ils ont commencé pendant 10-15 minutes à descendre l'Église. L'Église, c'était à peu près la pire place à aller. Le dimanche matin. C'était plus profitable pour eux autres d'aller au golf le dimanche matin que de venir à l'Église. Puis moi, je les ai écoutés pendant 10-15 minutes. Voyez-vous, ce matin-là, je suis retourné chez nous, j'avais plus que mes livres que je suis venu chercher. Je suis rempli de doutes. Je ne suis pas venu me faire massacrer. Moi, je veux juste aider. Je veux juste aider, là. 10-15 minutes, bang. Je suis arrivé chez nous, là, je pesais, je pense, 550 livres. J'avais tout un poids sur mes épaules. Qu'est-ce que je fais là? Y a-tu quelqu'un d'autre? M'a donné ma place, c'est pas long, là. L'exercice de la foi, c'est s'exposer à des blessures et des doutes. Voyez-vous, quand on se tourne vers les gens pour un sens de sécurité, de confort, d'acceptation, on est toujours déçu. Quand on fait ça, on met l'homme en premier, puis Dieu en dessous. L'homme est grand, Dieu est petit. Ça ne peut pas être les deux pareils. Quand on s'attend à ce que les hommes nous rendent quelque chose, on met Dieu en dessous, puis l'homme en haut. On n'est pas des serviteurs des hommes, on est des serviteurs de Dieu en premier. J'appelle ça, moi, aller à l'université de la baleine. Lire des livres, c'est excellent. Écouter des messages, c'est excellent. Aller dans des cours particuliers, c'est excellent. Allez-y! Mais il y a des choses qu'on va apprendre simplement à travers l'université de la baleine. L'exercice de la foi aussi révèle les affections de notre cœur. La définition de idole pour Timothy Keller, un auteur bien connu, c'est tout ce qui est plus important que Dieu, captive nos cœurs et notre imagination. Et sans le savoir, et même parfois avec la conscience de le savoir, on cherche à être reconnu. Est-ce que les choses que je fais, ça va me rapporter en quelque part? Jacques et Jean viennent voir le Seigneur, puis disent, hey, Seigneur, quand tu vas être en haut de la pyramide, là, y a-tu quelque chose pour nous autres? On peut-tu être à gauche pas à droite? Y a-tu un revenu de ce qu'on fait? Vous savez, être un serviteur de Dieu, c'est pas naturel. C'est pas naturel du tout. Et les idoles du cœur prennent toutes sortes de formes. Le premier point de mon message était l'exercice de notre foi dans l'appel de Jonas. Le deuxième point, c'est l'exercice de notre foi dans la réaction de Jonas. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire le verset 3, 5 et 6. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais, et là ici, c'est le verset 4, Dieu envoie la tempête. J'aimerais ça passer au verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de la rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Voyez-vous, Jonas se prépare. Une fois qu'il a entendu le message, il se prépare, il va dans le garde-robe, prend la valise Air Canada, il part pour Jaffa. Il prend la direction exactement opposée de Nénive, qui est Tarsis. Tarsis, c'est une ville assez lointaine. On n'est pas sûr où ce que c'est. Apparemment que ça peut prendre 3 ans pour se rendre à Tarsis. Gros voyage, là. 3 ans pour se rendre. C'est une ville qui, selon ce que j'ai pu comprendre, c'est une ville commerciale, c'est une ville qui possiblement construisait des gros bateaux de Tarsis. C'est pour ça qu'on appelle les bateaux de Tarsis. C'est probablement que ça venait de la ville de Tarsis. En réalité, Tarsis, c'est n'importe où, à part de où ce que Dieu te veut. C'est ça, notre Tarsis. Dieu te veut là, tu es rendu là. Ou tu es rendu là, tu es rendu là, tu es rendu là. Tu es rendu en avant, tu veux te l'avoir là. C'est ça, notre Tarsis. Jonas, au lieu d'enseigner et de prêcher, il fait du tourisme sur la Méditerranée. Un voyage touriste, 3 ans. Il fait du tourisme. Et savez-vous quoi? Ça ne semble pas l'affecter trop. Il fait du tourisme et il trouve ça le fun quand même parce qu'il a l'occasion, même si c'est une grosse tempête, là, lui, il est dans le fond du bateau et il dort. Ça ne le dérange pas pantoute. Hey, ça se peut-tu, un prophète en parfaite désobéissance à Dieu, puis il est conscient de ça puis ça ne le dérange pas. Il continue à faire ses affaires. Jonas, au lieu d'obéir à Dieu, il est rebelle. Jonas a une meilleure idée que Dieu, lui. Et au Jonas aussi, vous avez remarqué, il y a des prophètes, Dieu leur parle, et au moins ils s'argumentent, ils chicanent, il y en a qui se battent contre Dieu, mais lui, il ne s'argumente pas, il part, puis il s'en va directement dans la direction opposée. Pas d'argumentation de Jonas, point d'assassinat. Quand Dieu appelle à faire quelque chose de difficile, le cœur humain préfère se sauver, s'évader semble être une option plus facile. Voyez-vous, le péché de Jonas, il pas commis d'adultère, lui, là. Il n'est pas dans boisson, il n'est pas dans drogue, il n'a pas violé personne, il n'a pas tué, il a juste fui Dieu. Il y a bien des personnes dans la parole de Dieu qui ont fui Dieu. Je pense à Adam et Ève, ils ont fui Dieu. Caïn, quand il a tué son frère, il a fui Dieu, il est devenu fugitif. Il y en a bien d'autres qui ont fui Dieu. Tandis que les marins travaillaient à garder le bateau à flot, les marins, eux autres, au moins, ils ont eu la décence, excusez, de prier leur Dieu. Jonas, lui, il dort. Les marins, ils risquent leur vie. Jonas, lui, il dort. Les gens autour de lui sont en grand danger. Jonas, il dort. Savez-vous quoi? Les caractéristiques du sommeil, c'est quand on dort, on ne sait pas qu'on dort. Et le seul temps qu'on sait qu'on ne dort pas, c'est qu'on sait bien de se réveiller. L'es-tu correct, là? À l'été, il y avait, nous autres, chez nous, il y a deux balançoires. Le balançoire de droite, ça appartient à ma femme. Touchez pas à ça. L'autre balançoire, j'étais là, je suis en train de lire un bon livre. C'était l'été, j'étais en vacances, puis il faisait beau, puis le soleil plombait sur moi. Puis là, je suis en train de lire le livre, un livre. Ça faisait 8 fois que je disais la même ligne. Là, ça allait de même un peu. Là. Mais je m'assure, je vous dis que ma femme demandait déjà elle. OK? Elle était déjà sa balançoire, puis elle dormait. Mais moi, j'étais de même. Moi, j'ai persévéré, là. Mais là, d'un coup, là, je suis parti. Mais je ne savais pas que je suis parti. Jusqu'à temps, j'ai eu un coup, c'est pire de même. Elle dit, tu dors? Non, non, je ne dors pas! Non, je ne dors pas! Mais c'est pourquoi je dormais. Puis c'est quand que je me suis réveillé que je me suis aperçu que je dormais. Ça veut dire que quand on dort, on ne sait pas qu'on dort. Puis le seul temps qu'on peut être conscient qu'on dort, c'est qu'on ne dort plus. Ouf! Il va falloir que j'écrive ça, parce que là... Je n'étais pas conscient que je dormais dans ma condition. Mais dans l'exercice de ta foi, vous savez, dans la vie chrétienne, ça peut être pareil. Tellement pareil des fois. C'est subtil le sommeil spirituel. C'est graduel. C'est imperceptible. On ne s'en aperçoit pas là, qu'on va dormir. Là. On n'est pas conscient. Non, non, je ne dormirai pas. Je vais leur lire la ligne encore une fois, puis m'en va persévérer. D'un coup, t'es parti. C'est imperceptible. Des fois, ce n'est pas un jour. Des fois, ça peut prendre des mois, des années. On se donne toutes sortes de permissions jusqu'au jour où on ne s'en aperçoit même pas, puis on dort. On dort. Peut-être qu'on a accepté des choses aujourd'hui qu'il y a 10 ans passés, on aurait condamné. On se justifie par toutes sortes de raisonnements. Il y a une tempête autour de nous, il y a des gens qui sont en danger spirituel, puis on n'en est même pas conscient parce qu'on dort. Et on va prendre un exemple, nous autres, en tant qu'Église. Vous savez, on peut dormir. Oh, on peut dormir. Voyez-vous, ça fait plusieurs années que je viens à cette église. Selon ma mémoire, il n'y a jamais eu autant de gens en cas de discipline. Et je le dis avec crainte et peine. Il n'y en a jamais autant eu. Je peux me tromper, mais il y en a un paquet. Ça se peut-tu qu'on dort? Il y en a certainement qui ont dormi. Et c'est toute la même situation, adultère. C'est tellement subtil. À un moment donné, ça commence à l'intérieur du cœur. On peut continuer à venir à l'Église, ça ne paraît pas ces affaires-là. On s'imagine qu'on peut fuir Dieu, mais l'histoire de Jonas nous dit exactement le contraire. C'est une impossibilité de fuir Dieu. Ça commence à l'intérieur du cœur. Puis c'est graduel. C'est pas une attaque soudaine, c'est pas une décision. Hey, un matin, on m'envoie là-bas. Non. C'est graduel. C'est comme imperceptible. À un moment donné, on n'aime plus nos femmes, ou vice-versa. Ça ne nous dit plus rien. Des fois, ça peut prendre des années, puis un bon matin, une bonne soirée, on passe à l'action. Peut-être que tu es sur le point ce matin de faire quelque chose de dangereux. Peut-être que tu es au point que dans ton sommeil, tu es en train de prendre une décision qui est dangereuse. J'aime ça te donner un coup de pied. Pour te réveiller. Fais attention. Être dans les profondeurs des eaux saignantes, c'est le rien d'agréable. C'est même très désagréable. Dieu a la capacité de faire élever une tempête, puis c'est pas long. Ça n'a rien d'agréable. Ça ne vaut pas le plaisir de 15 puis une demi-heure. Non. Être dans les profondeurs, les ténèbres, les océans, n'a rien d'agréable. Voyez-vous, Dieu a vu le péché de Ninive. Dieu a vu le péché de Jonas. Et parce qu'il les aimait, il ne les a pas laissés passer. Le premier point du message, c'est l'exercice de notre foi dans l'appel de Jonas. Le deuxième point, c'est l'exercice de notre foi dans la réaction de Jonas. Et le troisième point, c'est l'exercice de notre foi dans la réaction de Dieu. Voyez-vous, même si Jonas est déterminé d'aller à Tarsis, même s'il est déterminé à payer le gros prix pour son transport, Dieu, lui, n'a pas dit son dernier mot. Voyez-vous, au travail, j'ai la responsabilité de certaines personnes, puis quand on les embauche, on leur dit quoi faire. On s'attend à une certaine production de leur part. On leur donne des instructions, voici ce qu'il faut faire. On leur donne une horaire, voici l'heure, il faut rentrer, l'heure qu'il faut sortir, les lunchs, on leur donne tout ça. Et parfois, il y a des gens qui, pour des raisons, je ne suis pas dans leur cerveau, mais ils font exactement le contraire de ce qu'on leur demande. 8 heures, c'est devenu 8h30. Puis pour toutes sortes de raisons. Et on monte un espèce de dossier qu'on appelle. Puis à un moment donné, quand c'est trop, on les appelle au bureau, on leur dit, ben écoute, notre heure de travail ou l'emploi, ça ne marche plus. Là. Tu ne réponds pas aux exigences du poste. C'est ça qu'on leur dit. Ouais, mais pourquoi? Tu ne réponds pas aux exigences du poste, c'est tout. On te demandait que tu vides ton casier, tu prennes tes affaires, puis tu t'en ailles, on va t'envoyer ton chèque par la poste. C'est à peu près comme ça, ça se passe. Dieu aurait pu finir ça avec Jonas après le verset 3. Ça aurait pu être arrêté là. Jonas, c'est bien de valeur, tu ne réponds pas aux exigences du poste, c'est fini. Prends tes bagages, va-t'en. On va trouver quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est plus adéquat, quelqu'un qui est plus capable que toi. J'aime ça qu'on puisse lire le verset 4. Mais, hey, ça c'est un beau mais, ça. Hein? Hey, ça là, ça va à peine, ça. Mais. L'histoire a pu finir là, mais. Et regardez bien ça. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Et le navire menaçait de faire naufrage. Et j'aimerais ça vous lire le commentaire de quelqu'un qui... j'ai lu ça en quelque part, il faut que je le trouve. Il dit, il a fait souffler. Regardez ce que c'est le commentaire. Son nom, c'est Timmer. Il dit, Dieu avait déjà préparé la tempête. Et aussi le gros poisson, verset 15, pour empêcher le voyage de Jonas. Dieu est encore une fois en avant et agit de telle façon d'apporter le prophète rebelle à Ninive pour déclarer le message d'avertissement. Quand il dit une grosse tempête, là, c'est pas un vent, là, c'est une grosse tempête. Un vent impétueux ou une grosse tempête, c'est le même mot. On emploie ce mot-là pour nous parler de la majesté de Dieu. C'est une méchante grosse tempête, là. Le navire, je ne sais pas comment ça se fait qu'il a resté sur l'eau parce que c'était une grosse tempête. Ils vont-tu comprendre? Jonas, il va-tu comprendre? Là? Une grosse tempête. Puis en plus, au verset 15, la tempête s'est passée, il envoie une grosse baleine. Les théologiens vont dire, ben c'est un gros poisson. Ben on va dire, c'est un gros poisson. Voyez-vous la peine que Dieu se donne pour ramener Jonas dans la bonne direction? Hein? Là, des fois, on s'attend que c'est une pénitence, une conséquence. Dieu le voit comme une action de grâce à son égard. Il se donne la peine pour vous autres, pour chacun de nous. Il n'abandonne aucun de ses enfants. Et parfois, la tempête est là, là. Des fois, c'est les gros poissons qui sont là. Mais une chose est sûre, c'est mieux qu'il vous court après, qui ne vous court pas après. L'histoire de Jonas aurait pu finir au verset 3, parce que lui avait choisi de faire sa propre volonté. Voyez-vous, la plupart des commentaires à ce point-là vont vous parler des attributs de Dieu. Ils vont vous parler de l'omniscience de Dieu, de l'omniprésence, de l'omnipotence. J'avais déjà préparé une page de chaque affaire à vous parler de ça. J'ai pris les feuilles, j'ai déchiré, j'ai dit, on va parler d'autre chose. En fait, j'aimerais ça que vous vous concentrez sur ça. vous allez remarquer les ressources de Dieu. Dieu n'est pas restreint dans les ressources qu'il a. Dans un instant, un clin d'œil, il envoie une tempête. Une méchante tempête. Dans un clin d'œil, il peut arrêter la tempête. Il peut faire venir un gros poisson. Il peut guérir les aveugles, ressusciter des morts, éliminer des ennemis. Il n'y a absolument aucune ressource que Dieu n'a pas à sa disposition. Et Dieu n'est pas seulement dans les grandes choses. Il n'est pas juste dans les grands miracles. Là. Dieu est aussi dans les petites choses. Voyez-vous, je pensais à Israël quand il était dans le désert. Pendant 40 ans, Dieu a fait le service de livraison gratuit, pas de pizza, mais de petits gâteaux au miel. Pendant 40 ans, il a nourri des millions de personnes. Service de livraison gratuit des petits gâteaux à chacune des personnes là-bas. Personne n'est mort de faim. Là. Et personne n'est sorti avec un gros sac non plus. Il y en avait juste assez qu'il y avait besoin. Pendant 40 ans, il a fait ça. Puis là, quand ils sont arrivés au pays des Canaïens, il a arrêté ça. Parce que le pays avait la capacité de cultiver le sol. Les gâteaux, ils ont arrêté. Mais Dieu a pourvu de la même chose. Celui qui pourvoit au petit gâteau, au miel, il pourvoit aussi à la terre pour qu'il puisse cultiver. Une situation extraordinaire, Dieu va pourvoir d'une façon extraordinaire. Une situation ordinaire, il va pourvoir d'une façon ordinaire. Maintenant, on vous donne une pelle, on vous donne la terre, allez-y. Mais Dieu, il pourvoit pareil. Que ce soit dans les grandes choses, que ce soit dans les petites choses, Dieu pourvoit. Et la plupart des bontés de Dieu est enveloppée dans les choses ordinaires. On peut penser à la santé des enfants, à la protection sur la route, un chèque de paie régulier, un souper de famille, des conversations entre frères et sœurs. Ça fait partie du travail quotidien de Dieu. Comment qu'on peut conclure un message sur la pratique de notre foi? Mais d'abord, j'aime ça vous dire, il faut arrêter absolument de présenter Jésus comme un porte-bonheur. OK, on peut-tu faire ça? Arrêtez de présenter Jésus ou Dieu comme un porte-bonheur. Et si tu viens à Jésus, là, si tu viens ici, là, tu vas à ça, tu vas découvrir une nouvelle affaire. Là. Comment je pourrais dire ça? Un sens à ta vie. Jésus va régler tes problèmes de couple. Jésus va régler tes problèmes financiers. Jésus va répondre à tous tes besoins. C'est pas vrai, ça. Jésus n'est pas un porte-bonheur, là. Jésus n'est pas venu ici principalement pour faire tout ça. Puis c'est vrai que suivre Jésus va t'apporter certains bénéfices, j'en doute. J'en doute pas, puis c'est vrai. Mais de prétendre que de venir à Jésus, ça va t'apporter tout ça, c'est pas vrai. C'est un mensonge. C.S. Lewis, il dit ceci, mentionne que s'il voulait quelque chose de facile et sans douleur, il aurait choisi une bouteille de vin plutôt que Jésus. Présenter Jésus comme un porte-bonheur produit de fausses conversions. C'est ça que ça produit. Voyez-vous, la justice de Dieu considère tes péchés comme une dette. Une dette que peu importe tes actions que tu vas faire, sont incapables de payer ta dette. Tes actions ne peuvent payer ou ne peuvent effacer tes péchés. Mais à tous ceux qui se tournent vers Jésus pour le pardon de ses péchés, leur dette est éliminée complètement. Et en plus, ils ont l'héritage de la vie éternelle. Présenter Jésus comme ça. Pas comme Jésus va te donner un sens à ta vie. Une autre chose aussi, ne pas présenter Jésus comme un porte-bonheur. Et là où j'aimerais ça que vous fassiez un exercice spirituel. Vous savez, quand on loue une chambre d'hôtel, il y a toujours dans la porte, après la poignée de la porte intérieure, il y a toujours une petite carte là, avec un trou dedans pour passer à travers la poignée. Et la petite carte, c'est marqué Please. Do not disturb. En français, c'est prière, ne pas déranger. C'est ça que c'est écrit. Et voyez-vous, quand on est dans la chambre et on ne veut pas se faire déranger le matin, on veut faire la grâce matinée, on ne veut pas se faire déranger, on ne veut pas que la personne rentre dans notre chambre et fasse le ménage, dérange nos choses. On veut se la couler douce. On prend cette carte-là, puis on la met à la porte à l'extérieur. Puis ce que ça dit, ça, c'est que la personne qui devait venir faire notre chambre à une telle heure, c'est passe donc au suivant. C'est ça que ça dit. Passe outre, là. Va voir l'autre à côté. Là. Tu reviendras, mais qu'on mette la carte. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse faire l'exercice spirituel de prendre la carte. Prendre la carte « Do not disturb ». Prière de ne pas déranger, prendre la carte, la déchirer et la mettre dans les poubelles. Seigneur, moi, je suis disponible à exercer la foi que tu vas me donner au risque que ça me coûte plus cher que ce que j'avais anticipé. Seigneur, je veux te donner la permission que je puisse exercer ma foi, même si ça me rend inconfortable. Tu es capable de faire ça ce matin? Prendre la carte du not disturb. Je prends ma carte. Déchire en 8, mets ça dans les poubelles. Seigneur, viens dans ma vie. Viens faire en sorte que je puisse exercer ma foi en toute liberté. Que le péché ne puisse pas être un sujet que je n'exercice pas ma foi. À un tel point que ça me rend inconfortable. À un tel point que ça me coûte de quoi exercer ma foi. Ça va me coûter cher. Mais Seigneur, je veux le faire. J'enlève ma carte, rentre. Je veux exercer ma foi. C'est ça, l'exercice de la foi. C'est ça, grandir dans la foi. C'est ça, persévérer dans la foi. Ça me coûte quelque chose. Il y a un risque à prendre. Mais j'ai jeté ma carte. Seigneur, viens. Entre dans ma vie. Seigneur Dieu, on se coupe devant toi et c'est avec joie, on veut exercer notre foi, sachant que nos sentiments n'ont pas la première place, mais tu as la première place. Seigneur Dieu, puisses-tu venir dans nos vies. On te donne la pleine liberté. Et merci pour l'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous dirige.